안녕하세요.
Bonjour.
안녕하세요.
Buenos días.
See ya.
Bonjour.
Oui.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio La Vide. Nous sommes un groupe de jeunes des cours de français B2 du service des langues de l'université Pablo Lavide. Avez-vous déjà pensé aux différences qui existent entre la France et l'Espagne dans plusieurs domaines de la vie, tels que l'éducation, la musique ou la nourriture? Et s'il n'y avait pas tant de différences qui nous unissent, mais plus de ressemblances? Aujourd'hui, nous répondrons à ces questions et aborderons des sujets d'actualité tels que les études, l'alimentation, la musique et nous terminerons sur une réflexion sur les stéréotypes associés à la France.
Si t'es là, faut pas que tu baignes, faut pas que tu gênes, faut pas que tu te plaignes. Si t'es là, faut pas que tu kisses, faut pas que tu risques, faut pas que tu glisses. Si t'es là, faut pas que tu faut pas bien, faut pas que tu faut payer, faut pas que tu fasses le risque, pas que tu fais les vies, pas que tu fous de la mousse, faut pas que tu fasses le pouce, pas que tu fasses le fou.
Bonjour, bonjour. Je m'appelle Judith et aujourd'hui, je suis avec mes copines Paula et Lucia pour parler de l'éducation française ainsi que de la différence du système éducatif espagnol et français à l'université. D'abord, je vais commencer en disant que le système universitaire en France est un peu différent à celui de l'Espagne. En Espagne, les cursus ont une durée de 4 ans, tandis qu'en France, la durée de ces cursus a une durée de 3 années. Avec le master, on peut voir une tendance pareille, puisque la durée d'un master en France est de 2 années et en Espagne, cette durée est d'une année. C'est pour ces raisons que si on suit des études en France pendant une année, en Erasmus ou en stage par exemple, on doit faire seulement une année de master là. Cependant, à notre avis, ce qui est le plus important pour les élèves, ce sont des formations en apprentissage qui sont rémunérées. On a fait une petite recherche sur un site web qui s'appelle Parcoursup et on a vu des conditions pour suivre une formation en apprentissage mais rémunérée. Pour la faire, vous devez trouver un contrat d'apprentissage avec une entreprise et vous devez tenir en compte quelques faits. Et premièrement, la plupart des contrats d'apprentissage sont signés entre mars et octobre. Et deuxièmement, plus de la moitié des jeunes trouvent leur entreprise avant le centre de formation car dès que le contrat est signé, l'administration en centre de formation est ralentie. Et finalement, votre salaire dépendra de votre âge, du secteur de l'entreprise et de la durée de votre contrat d'apprentissage.
Comme ma copine Judy a dit, aujourd'hui on va parler des différences entre l'université espagnole et française. On va continuer en nommant une autre différence entre ces deux systèmes, l'accès. En Espagne, l'accès à l'enseignement supérieur est conditionné à l'obtention du bachillerato, baccalauréat, et de la PAU, prueba d'acceso a la universidad. Il dépend également de la moyenne de notes de l'élève de 2 années précédant le bachillerato. La sélection est donc un peu plus compliquée qu'en France, où pour les universités basiques, il suffit d'obtenir son bac. Les titulaires de diplôme technique ne peuvent pas accéder à l'enseignement espagnol et devront s'orienter vers des formations professionnalisantes qui correspondent à leur parcours. Également, les cours sont différents entre les deux pays. Les études en Espagne sont beaucoup plus chères qu'en France, où les universités publiques sont presque gratuites. Une autre dissonance entre les deux pays réside dans la méthodologie appliquée en cours. En France, elle est rigoureuse et très spécifique, et les élèves sont tenus de la suivre à la lettre, par exemple pour les devoirs à rendre. Ce n'est pas le cas en Espagne, où l'organisation et les façons de faire sont moins bien définies, et donc plus libre. D'autre part, il est souvent dit que le degré d'autonomie est un autre point de différenciation entre la France et l'Espagne. Dans les premiers pays, les élèves sont moins accompagnés par l'institution et le corps professoral et doivent donc se débrouiller davantage seuls que dans les secondes.
Oui, de plus, on a parlé avec des filles espagnoles qui habitent en France et nous leur avons demandé les différences que l'on trouvait en étudiant en France. Le premier témoignage nous l'a donné Marta, une étudiante de 23 ans qui habite à Paris et est en train de faire une M2 en alternance.
Bah, moi, je vois pas mal de différences en fait. Déjà, la plus grande différence que je constate, c'est en fait, et ça c'est en général, c'est pas que dans mon master, c'est le fait que le système éducatif pousse et encourage les gens à aller dehors, à faire des stages, à trouver de boulot, à faire de l'alternance. Donc c'est vraiment une chose qui s'estile aujourd'hui en France. Et je pense que ça, c'est la plus grande différence entre l'Espagne et la France. Et c'est voilà le fait que l'État et les établissements scolaires soutiennent la partie, on va dire, le fait de donner un coupement, on peut dire, à l'heure de trouver du boulot et d'avoir vraiment un profil avec un petit peu d'expérience. Donc les gens qui sortent d'un master 2 ont déjà pas mal d'expérience, des années bossées, même s'ils sont des stages ou de la tendance, ça reste quand même une expérience qu'en Espagne on voit pas forcément parce que c'est une formation très théorique, je trouve, et c'est pénible en fait parce que tu te vois en étudiant pour des examens d'une longueur et d'une théorie qui sert en fait à rien, mais qu'après tu as vraiment du mal à trouver de boulot, tu t'y connais pas, tu sais pas ce que tu veux faire parce que toute ta vie, tu n'as fait qu'étudier pour un examen qu'après, tu vas tout oublier. Donc, je pense que c'est vraiment pénible et que ça ne sert à rien, déjà.
Le second témoignage nous l'a porté Laura, qui travaille comme assistante de langue dans un lycée professionnel à Paris. Elle nous a raconté qu'en France, les établissements scolaires encouragent plus aux élèves à se familiariser avec le travail à travers des stages ou des alternances qu'en Espagne. En général, avec ce témoignage, on peut dire que l'éducation en France est plus axée sur l'importance de connaître le monde du travail. Merci beaucoup.
Ça délit les langues sur Radio La Vive.
Paula, Judith y Lucía han hecho una comparación sobre el sistema universitario español y francés. Después hemos escuchado un testimonio de dos estudiantes sevillanas que han contado su experiencia de Erasmus en París. La educación en Francia y España, sus diferencias, sobre todo en la duración de los estudios universitarios, los precios y una mayor aproximación al mundo laboral.
Bonjour, moi c'est Christina.
Moi c'est Agustin.
Et moi c'est Enrique.
Et on va parler de la cuisine espagnole et la française. Pour bien connaître la culture, c'est important qu'on doit parler de la différence entre la nourriture française et l'espagnole. les prix, les horaires, les types de nourriture. Enrique, qu'est-ce que tu penses?
Je pense que la nourriture française est survalorisée. C'est vrai qu'ils ont un très bon vin et fromage. Mais sais-tu, tout le monde dit que c'est une des meilleures du monde, mais les quatre fois que j'ai été en France, je n'ai rien trouvé de spécial. Pour manger dans les restaurants, il faut dépenser beaucoup d'argent. Pour moi, les meilleurs lieux pour manger sont l'Italie et l'Espagne.
Et qu'est-ce que c'est que tu as mangé en France?
Je me souviens que j'ai mangé beaucoup de fromage, de bœuf bourguignon et de quiche lorraine. C'était trop bon, c'est vrai. Mais je me souviens que j'ai payé 20 euros. Dans Espagne, on peut manger très bien pour 10 euros. C'est le prix juste. Aussi, au sud de l'Espagne, les restaurants sont toujours ouverts. Là-bas, si tu es dans un petit village ou une petite ville, tu n'es pas trouvé les restaurants ouverts dans la sédiment. Ici, nous avons une meilleure culture de la fête. Nous avons une culture plus sociale dans la rue et donc tu es toujours ouvert et pas cher.
C'est vrai. Et qu'est-ce que c'est que tu penses des personnes françaises?
J'aime beaucoup l'hospitalité du français, par exemple. Je me souviens que j'ai été invité dans une maison pour boire du vin et manger du fromage.
Et toi, Augustin, qu'est-ce que tu penses?
Je pense que la nourriture en France est vraiment magnifique. En premier lieu, les vins et les fromages sont les meilleurs que j'ai mangé dans toute ma vie. En second lieu, et pour toutes les personnes qui aiment le sucre, les crèmes c'est un délice de Dieu. Quand j'y allais en France, le Mont Saint-Michel c'est le meilleur lieu pour manger. Aussi, j'aime vraiment les restaurants de Blois. L'unique chose que je déteste, c'est l'heure de manger.
La vérité est que la cuisine française est très différente de la cuisine espagnole et donc nous ne pouvons pas les parler et savoir lesquels sont les meilleurs. Tout d'abord, les cuisinaires français toujours avec des bords. Et je ne parle pas que des calories. Le problème, c'est le goût. Et c'est que si vous en avez l'occasion, je vous invite à faire cuire un steak de poulet ou de bœuf avec du beurre au lieu de l'huile. La vérité, à mon avis, n'y a pas de couleur. Le beurre aussi, bon soit-il, lui donne un goût beaucoup plus sucré et je ne saurais probablement pas les chéchifier. Mais j'ai l'impression de ne pas manger un bon steak de bœuf. Bien sûr, pour cuisiner comme nous cuisinons, et c'est-à-dire utiliser une demi-bouteille d'huile pour faire frire un steak n'est pas très normal non plus. Et la vérité est que je le comprends. Dans quelle famille n'arrive-t-il pas que la mère, la grand-mère, le père ne te fassent pas de steaks pan et mettre 500 centilitres d'huile? Si vous leur demandez la raison de cette action, ils vous répondront. Sinon, ils contentent à la casserole. Ici, on ne met pas un demi-litre d'huile, mais un bon dose de beurre.
Autre différence réside dans les directives que les Français suivent lorsqu'ils mangent. 1. Pour manger, il faut être assis. 2. Vous ne mangez pas devant la télévision. 3. L'eau ou le vin est toujours vous pendant le repas. 4. Il y a toujours des légumes sur la table pour qu'ils puissent être utilisés comme accompagnement avec le plat principal. 5. Les produits de saison sont généralement consommés. 6. Petite portion de nourriture. Je pense que le point le plus important est sûrement la plus grande différence avec la cuisine espagnole. Qui pourrait dire que chez votre grand-mère, il n'y a pas de nourriture en excès et qu'il vous propose toujours de répéter. Eh bien, cela ne se passe pas en France. Lorsque vous arrêtez de manger, il suppose que vous n'avez plus faim. Et la chose la plus importante à propos de la culture française, qui soit dit en passé, est étroitement liée à la cuisine française. C'est pour eux, cuisiner et manger est un plaisir. Et c'est à titre, ils prennent toujours leur temps pour manger, goûter chaque plat et n'hésitez pas à engager des conversations qui durent des heures et des heures en passant d'un plat à l'autre.
Cristina, Enrique y Agustín han hablado sobre la comida en Francia, las diferencias con respecto a los horarios, cómo se cocina y las formas de comer.
Radio La Vidée, ça délie les langues.
Alors, nous allons parler du succès de la musique en France et en Espagne, les différences qui existent et les chanteurs et chanteuses les plus écoutés des deux pays.
Alors, pour parler de la musique d'aujourd'hui, il faut d'abord parler de l'origine de la relation musicale entre l'Espagne et la France. Et en Espagne, le folklore a toujours été très présent dans la musique. Et à partir du 19e siècle, les compositeurs nationaux sont influencés par le flamenco, l'un des chants les plus caractéristiques du sud de l'Espagne. C'est un chant né ici en Andalousie, comme nous savons, et il est l'une des principales manifestations de l'art populaire espagnol. La chose intéressante est qu'avec l'éveil des nationalités, ces manifestations dépassent les frontières et inspirent des compositeurs comme Emmanuel Chabrier, compositeur en effet français. Il y a trois musiciens qui étaient particulièrement importants, Enrique Granados, Manuel de Falla et Isaac Albéniz.
On l'a bien étudié à l'école, je me souviens.
Oui, bien sûr. Dans le dernier quart du 19e siècle, les compositeurs français commencent à s'enthousiasmer pour le folklore espagnol en réaction à la domination musicale wagnérienne, c'est-à-dire de Wagner. Une grande partie des musiciens a soif de créer une musique inspirée des traditions musicales populaires. Georges Bizet est un des premiers à suggérer l'Espagne dans sa musique. En inventant un folklore imaginaire, il écrit son opéra Carmen, dont le drame se déroule à Séville, et en utilisant beaucoup d'effets musicaux exotiques. À son tour, Camille Saint-Saëns compose quelques années plus tard La Vanesse, et nous avons aussi Édouard Lalo qui s'approprie les traits caractéristiques qu'il pense être du folklore espagnol pour évoquer la péninsule ibérique et dans sa symphonie espagnole.
Pourtant, il ne faut pas voir dans ses influences un travail de recherche musicologique établi par les compositeurs français pour leur permettre d'imiter notre musique. Leurs œuvres sont plutôt les purs reflets de la forte attirance des Français pour l'Espagne, mais c'est surtout en Espagne idéalisée que ces compositeurs ont recréé, car la plupart en fait ne sont jamais venus. Vers la fin du 19e siècle, des liens de plus en plus forts s'exercent entre musiciens français et espagnols. Et Paris, capitale de la musique, attire de nombreux compositeurs étrangers. Ils se font d'allier à l'école espagnole de Paris.
Alors, que s'est-il passé au XXe siècle, Angela?
Et c'est une bonne question. Et la musique du XXe siècle est très célèbre pour certains artistes. Par exemple, un chanteur français très célèbre que vous connaissez sûrement est Edith Piaf, dont les chansons les plus connues sont La Vie en Rose et Non, je ne regrette rien. En Espagne, je veux dire que la chanteuse la plus écoutée est Lola Flores, ou peut-être Rocío Jurado. Et de plus, il y a d'autres chanteurs moins connus en Espagne comme Georges Brassens ou Charles Aznavour, dont les chansons les plus célèbres sont Chansons pour la Auvergnate et Hier encore, respectivement. Je veux dire qu'en Espagne, les chanteurs masculins les plus connus sont Rafael et Julio Iglesias. Mais il s'agit d'une émission de radio actuelle et nous devons également parler de la musique d'aujourd'hui.
Bien sûr. Par exemple, as-tu entendu parler d'Angèle?
Oui, et je crois qu'elle est un de mes artistes préférés, est un des chanteuses les plus écoutées actuellement. Aussi, je suis captivée par la musique de Stromae et Barbara Pravi. Ces artistes représentent très bien ce que la musique française aujourd'hui est. Il est indiscutable qu'ils ont marqué l'histoire de la musique actuelle.
Je dirais qu'en Espagne, le genre le plus écouté est le reggaeton, car les artistes les plus écoutés en ce moment sont Quevedo et Rosalía. Est-ce que tu aimes leur musique?
Oui, par-dessus tout, j'aime beaucoup Rosalía. Je pense qu'elle inclut beaucoup d'éléments musicaux typiquement espagnols et je pense que c'est une bonne revendication de nos racines. Et comme Rosalía, il y a un autre artiste espagnol qui s'appelle Zetangana, qui, comme elle, met en valeur la musique espagnole dans ses chansons, dont je dirais que ces deux chanteurs sont les plus grands représentants de la musique espagnole en ce moment.
C'est vrai. D'ailleurs, as-tu écouté la proposition de l'Espagne pour l'Eurovision de cette année?
Oui, je crois que Blanca Paloma est une chanteuse fantastique. Et je veux dire que la proposition de la France est parfaite aussi. La chanteuse s'appelle La Sara. Et je pense que cela surprendra plus d'une personne.
En effet, ce sont des chansons très intéressantes. On verra ce qui se passe au festival. Alors, nous avons parlé de la musique française et espagnole et nous pouvons passer aux stéréotypes français avec Myriam et Lucia.
Ángela y Alba han hecho un recorrido por la música española y francesa, desde el siglo XIX hasta la actualidad, haciendo hincapié en las influencias españolas en la música francesa. Han nombrado algunos de los artistas más representativos del siglo XX en adelante, tanto españoles como franceses. Por último, centrándose en la actualidad, han subrayado el éxito de los distintos artistas de nuestra época, en Francia y en España, así como lo interesante de las propuestas de Eurovisión de este año 2023 de estos dos países.
Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis avec ma camarade Lucie. Bonjour Lucie.
Bonjour Myriam.
Nous allons vous raconter quelques stéréotypes que les Espagnols ont des Français. Par exemple, Paris est connue comme la ville de l'amour et les Français ont tendance à être des gens vraiment romantiques. Cela peut être lié à la grande quantité de séries d'amour enregistrées en France, par exemple, Émilie en Paris. Non moins, l'argument historique est que le pendant des siècles des Lumières, 18e siècle, Paris était le centre névralgique et de nombreuses idées nouvelles étaient échangées dans ces régions.
Oui, et d'autre part, Paris est aussi connue comme la ville de la mode et l'élégance. Tous les Français s'habillent très bien et ils sont super stylés. Ce qui est certain, c'est que la mode est étroitement liée au pays français. La mode française véhicule, depuis plus de 3 siècles, une image d'exception liée au luxe et à la création artisanale. Aussi, la France est très liée à la haute couture, mais c'est vrai que normalement, on entend Paris comme la France dans son ensemble.
Tout à fait. En plus, en relation avec la mode, il existe la marinière, un élément très français. Lucie, tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la marinière?
Oui, et c'est vrai, un des clichés de l'habillement français, c'est la marinière. À l'instar du béret, du fromage, du vin et du petit foulard, la marinière est inscrite dans les murs et fait partie des clichés français. Directement inspirée de l'uniforme traditionnel des matelots, la tendance marine a été remise au goût du jour par le créateur Jean-Paul Gaultier. Célèbre par sa version blanche et bleue. Aujourd'hui, la marinière a su traverser les décennies sans jamais prendre une ride. Elle continue de nous inspirer au quotidien dans nos outfits et s'est imposée comme un basique au même titre que le trench, le jeans ou encore le t-shirt blanc.
Cependant, ils ont aussi d'autres aspects négatifs. Par exemple, ils font beaucoup et partout. En plus, ils ne parlent pas d'autres langues que le français. Ils n'aiment pas parler l'anglais ou l'espagnol et par-dessus le marché, ils veulent que les étrangers parlent français parfait.
Oui, ce stéréotype est terrifiant surtout pour nous parce que nous allons en Erasmus en France dans 7 mois. N'est-ce pas Myriam?
Absolument, mais nous avons un très bon niveau de français. Un autre point important, c'est la forme de politesse des Français. Ce sont des gens vraiment polis qui vous traitent avec respect.
Ces formes de politesse sont obligatoires partout où vous allez en France. Si vous oubliez de dire bonjour, ils vous regarderont avec mépris.
Oui, c'est un classique. Mais à vrai dire, les stéréotypes sont une manière de perpétuer des préjugés. Réellement, c'est impossible que tous les Français soient froids, ou qu'ils fument tout le temps, ou que tout soit respectueux. Je crois qu'on devrait visiter le pays pour opiner.
Tu as raison, Lucie. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et nous espérons que vous avez apprécié cette émission.
Au revoir.
Ça délie les langues. Une émission proposée par Marianne Enoff.
Adios.
Et le groupe B2 du service de langue.
Amus Vera.
Niesenai. Avec
Paula.
Je m'appelle Angèle.
Je suis Lucia.
Sayonara.
Et je m'appelle Judith.
Christina.
Enrique.
Agustín.
Moi, c'est Alba.
Sayonara.
Je suis Angela.
Joyki.
Miriam.
Daijian.
Je m'appelle Lucia.
Goodbye.
Lucie. Yes. Réellement.
Arrivederci.
Au revoir.
Au revoir.
Montage et mixage, Marianne Enoff.
Adieu.
Au revoir.
Sayonara.
Agnio y Castello.
Auf Wiederhören. Auf Wiederluege.
Güle, güle.
Au revoir.
Ernest.
Au revoir, Ernest.